Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute d'Alter Echo. Au micro Olivier, à la technique c'est Pete. Je ne devrais plus le répéter, mais je le dis encore une fois pour ceux qui ne le savaient pas encore. Alter Echo, c'est donc sur Radio Campus tous les mercredis à 22h et c'est rediffusé tous les vendredis à 14h. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur Internet, sur le site d'Alter Echo à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Cette semaine, l'actualité d'Alter Echo est fort chargée, je dis bien l'actualité d'Alter Echo, parce que nous allons parler de sujets d'actualité dont la presse a très peu parlé, voire pas du tout. Ce soir donc, pas un mot sur la déclaration de politique générale du gouvernement, ni sur le procès du dopage dans le cyclisme, ni même sur la Serbie ou la Palestine. Cette semaine, nous allons parler de pédophilie, d'uranium appauvri, du réseau Echelon et du prix Nobel de littérature. Tout d'abord donc, les réseaux de pédophilie. Il y avait samedi dernier, dans un auditoire de l'UCL à Woluwe, un colloque consacré aux réseaux de pédophilie organisés. Après avoir fantasmé sur des hypothèses plus folles les unes que les autres suite à l'affaire Dutroux, la presse établie a connu un revirement soudain en 1997. Depuis cette époque, elle se fait le porte-parole notamment du juge Langlois, qui ne recule devant aucun sacrifice pour présenter Marc Dutroux comme un pervers isolé, alors que plusieurs enquêtes semblaient initialement aller dans le sens d'un réseau largement ramifié. Du coup, la presse n'enquête plus du tout sur l'affaire Dutroux et elle n'en parle que pour relayer des communiqués officiels qui portent en général sur des détails. Après de grosses échauffourées dans la presse, après une foire d'empoigne au sujet des fameux témoins X, on assiste aujourd'hui à un silence radio total qui contraste singulièrement avec le grand bruit qu'on avait fait à l'époque. Évidemment, ce contraste ne passe pas inaperçu et cette absence de débat crée un certain fossé entre la société civile, la populace, comme a dit récemment l'avocat de Michel Martin, et les institutions, qu'elles soient politiques, judiciaires ou médiatiques. Dan Van Ramdonk, le président de la Ligue des droits de l'homme, qui était présent au colloque, l'a constaté.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a il y a effectivement une rupture entre une population et une rupture entre des institutions. Et je crois que une des premières choses à faire, c'est recréer un lien. Mais ça veut dire réformer les institutions sans doute et poser les questions aux institutions de telle sorte qu'elles puissent apporter des réponses, les forcer à répondre. Je crois que ce qui pose énormément de problèmes aux gens qui sont ici, c'est qu'ils ont l'impression de poser des questions à des gens qui leur envoient pas de réponse. Même si je crois que d'abord qu'il faut renvoyer une réponse, même si la réponse ne satisfait pas, parce que c'est comme ça qu'un dialogue s'instaure. Et je crois que clairement, il y a un défaut de réponse. Visiblement ici, il y a un questionnement sur l'existence de réseaux de pédocriminels. Ici, il y a une affirmation de ces réseaux. Et de l'autre côté, il y a une sourde oreille. Je crois que la sourde oreille n'est pas la solution. Je crois que si effectivement on veut vraiment prouver qu'il n'y en a pas, il faut apporter des arguments. Et qu'en l'absence d'arguments, clairement, les gens vont continuer à penser qu'il y en a. Et il est possible qu'il y en ait. Moi, je ne me. Voilà, il y a des indices qui tentent à montrer qu'il y en a. Je crois il faut instruire le dossier clairement, mais il ne faut pas le mettre sous couvercle, il ne faut pas empêcher que le débat ait lieu. Je crois que ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'on ne puisse pas clairement en discuter. Et qu'effectivement, on ait l'impression que les différents types de médias par lesquels ce débat pourra avoir lieu n'investissent pas ce dossier-là. Et donc ça me semble dommageable. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie aussi que les gens puissent parler, puissent débattre, puissent s'approprier une question. J'aimerais aussi que tous les gens qui sont là puissent s'approprier d'autres questions. Je crois clairement que ça, c'est une attitude que moi j'ai envie de développer dans la société belge. C'est clairement la dynamique du débat. On va pas se balancer des vérités à la tête, on a des faits. Qu'est-ce qu'on répond à la présence de ces faits-là? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ces faits n'aient pas à se reproduire le cas échéant?
Comme le disait Dan Van Ramdonk, le débat sur l'existence d'une pédophilie organisée en réseau est totalement absent de l'espace médiatique. Il ne fallait d'ailleurs pas être grand clerc pour le comprendre samedi dernier. Aucune équipe de télévision belge, aucun journaliste n'était venu couvrir l'événement, excepté, on s'y attendait, Erik Rydberg du Matin. Évidemment, on pourrait se dire, comme les médias belges, que ce colloque ne présentait aucun intérêt pour personne, d'autant plus qu'il était organisé par la coordination des comités blancs, qui a très mauvaise presse dans une certaine presse. En fait, pas du tout. Non seulement les intervenants étaient nombreux et tous très calés dans leurs domaines respectifs, mais en plus, on a pu constater que cette journée et son thème intéressaient bel et bien la presse, mais la presse étrangère. Une équipe de la télévision allemande ARD était sur place et la correspondante de l'ARD était tout étonnée de se retrouver presque seule à couvrir l'événement.
Oui, ça m'a frappé parce que vu le nombre et la qualité des participants de ce colloque, je m'attendais à voir de voir beaucoup plus d'intérêt des médias belges et autres, et donc j'étais un peu surprise.
On parle encore de l'affaire Dutroux à l'étranger, notamment en Allemagne.
Oui, il y a encore un certain intérêt. On parle toujours en me posant la question quand est-ce qu'il y a là pour l'ouverture du procès. Et bon, si après on entre un peu plus dans les dates détails, il y a encore un certain intérêt, mais pas trop. Je pense que tout le monde attend la date, le jour J du début du procès.
Comment est-ce que vous expliquez de l'étranger le désintérêt total des médias belges pour tout ce qui touche à l'affaire Dutroux ou à la pédophilie en général?
J'étais très naïve au début, je ne voulais pas le savoir comme ça, enfin, j'étais très étonnée. Aujourd'hui, je pense que c'est plus systématique. Il y a une volonté politique, à mon avis. Et bon, il y a une préhistoire où tous ceux, journalistes et autres, qui avaient témoigné d'une certaine façon étaient ridiculisés ouvertement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peu qui suivent vraiment.
Mais pour quelle raison, d'après vous?
C'est difficile de juger. Je me pose les questions, mais je pose les questions aussi aux Belges qui connaissent. Et puis, eux aussi, ils ne donnent pas une vraie réponse. Donc, c'est difficile à juger.
Donc c'est le mutisme absolu du côté de la presse lorsqu'il s'agit de parler de réseau de pédophilie. Pourtant, ce n'est pas si facile de passer à côté puisque dans le cadre de l'affaire Dutroux, une foule d'indices donnait à penser que Dutroux ne pouvait pas avoir agi seul, qu'il devait bénéficier du soutien financier et de la protection d'une organisation plus vaste, plus puissante et mieux organisée que la petite bande de va-nu-pieds qu'il formait avec Le Lièvre et Weinstein. Mais la presse en a décidé autrement. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de réseau de pédophilie influent en Belgique et sûrement pas dans le cadre de l'affaire Dutroux. Du coup, pour éviter le sujet, la presse est obligée de se contorsionner et de déployer des stratégies pour détourner le sens des choses. Anne-Marie Roviello, professeure de philosophie à l'ULB, a écrit un livre à ce sujet intitulé Il faut raison garder. Elle nous explique en quoi consistent ces stratégies de la presse.
Alors, elles sont multiples, elles vont de la plus classique à la plus perverse. La plus classique, c'est de ne pas parler de tous les faits très problématiques, ne pas parler des indices faisant signe vers ces réseaux de manière très claire. Et quand on ne peut pas ne pas parler des faits, on en parle et on escamote tous les aspects très problématiques de ces faits. Donc ça c'est une première stratégie, la plus classique. Une autre stratégie, c'est lorsqu'on on ne peut plus nier les faits parce qu'ils ont été prouvés, on en parle d'un côté et puis quand il s'agit de conclure, on regarde ailleurs et on prend le ton de l'évidence, de l'imperturbabilité pour conclure, pour apporter une conclusion qui contredit ces faits. Et ça passe parce que, pourquoi ça passe? Parce que ça trouble l'interlocuteur, ça trouble les esprits. Les gens sensés et raisonnables se disent, ce n'est pas possible qu'on fasse une chose aussi insensée et aussi raisonnable. Donc, ça doit être juste quelque part. Donc, il y a ce phénomène qui se passe souvent aussi. Alors, une autre stratégie, c'est de dans les enquêtes, par exemple, le cas, moi j'ai pris le cas de Rochette parce qu'il me paraît le plus flagrant. Dans les enquêtes, nous-mêmes, l'enquête elle-même produit les faits. Hein. Les faits, en l'occurrence pour de Rochette, c'est le fait que plusieurs jours après l'enlèvement de Lubna, il a été vu, enfin en tout cas Lubna a été vu par une petite fille, une amie de Lubna, en compagnie de deux individus dans une voiture. On repère cette voiture grâce à la plaque que la petite fille avait pratiquement identifié. On tombe de cette manière sur de Rochette et puis on conclut, conclusion de l'enquête, de Rochette a tué Lubna le premier jour et il a agi seul. Et personne ne s'interroge sur cette cette discrépance, cette distorsion totale entre les faits et la conclusion de l'enquête judiciaire. Donc ce sont des énormités, et je me suis interrogée comment se fait-il que ces énormités passent. Elles passent puisque personne ne s'indigne, personne ne se scandalise, personne n'est surpris, en tout cas dans le public. Et je pense qu'elles peuvent agir du fait que précisément il ne s'agit pas de convaincre les interlocuteurs. Les gens ne sont pas convaincus par toutes ces énormités, par cette négation énorme des évidences. Il n'y a pas de conviction, mais il y a un trouble qu'on jette dans les esprits qui fait que les gens sont déstabilisés et ils sont paralysés dans leurs initiatives, dans leurs actions. En tout cas, c'est ce qui est visé, parce que je ne sais pas si c'est toujours réussi jusqu'à ce point-là, en tout cas.
Vous pensez que cette attitude de la part des journalistes relève plutôt du réflexe inconscient et éventuellement conditionné, ou de la mauvaise foi carrément machiavélique ?
Écoutez, moi je pense que vous avez de tout, depuis le réflexe inconscient, depuis tout simplement, parce que ça se passe souvent dans le journalisme pour d'autres affaires aussi, le réflexe qui consiste à répéter ce que d'autres ont dit. On n'a pas le temps de faire soi-même ses investigations, etc. Donc on reprend ce que tout le monde dit, on hurle avec les loups. Ici, il faudrait plutôt dire on se tait avec les loups. ça c'est une possibilité, c'est pas une possibilité, certains journalistes, c'est certainement ça qui se passe pour eux. Une autre possibilité, c'est que les journalistes, voyant que les pouvoirs publics veulent étouffer l'affaire, ils se disent « tenons-nous tranquilles, c'est la possibilité de la lâcheté ». Parfois, on peut comprendre d'ailleurs, hein, comme a expliqué Bouffiou, ces gens ont un statut de plus en plus précaire. Donc, deuxième possibilité, on se tait parce qu'on a peur. Troisième possibilité, et ce n'est pas de la paranoïa ce que je vais vous dire, parce que ce sont des juges européens les plus importants qui le disent, dans tous les pays européens, les médias sont infiltrés. Pour qu'on leur fasse dire ce qui doit être dit, ils sont infiltrés par la criminalité organisée. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve à la fois dans toutes les analyses sérieuses de la manière dont fonctionne la criminalité organisée. Elle n'infiltre pas seulement les institutions judiciaires, elle infiltre aussi les médias, étant donné que c'est un lieu de pouvoir, en effet, très important. Et des juges comme Eva Joly, des juges comme le procureur Colombo en Italie, qui a beaucoup été fort actif dans l'opération Main Propre, il dit qu'à partir d'un certain moment, il s'est fait casser par les médias parce qu'il intervenait sur les affaires de corruption et de criminalité, de mafia en Italie. Et il dit, en mots tout à fait clairs, que c'est de l'infiltration.
En clair, dans la presse dominante, le quatrième pouvoir est totalement mort.
Mort. Écoutez, en tout cas, pour l'affaire qui nous concerne ici, oui, pour moi c'est clair. Pour moi c'est tout à fait clair, c'est catastrophique. C'est la désinformation totale, c'est le silence maintenant quasi total, à part le matin. Il y a deux journaux en Belgique qui continuent à informer correctement, c'est le Morgen et le Matin. Mais sinon, moi je n'en vois pas d'autres.
Justement, Le Matin était le seul quotidien francophone à rendre compte du colloque de samedi dernier. C'est ce même quotidien qui a également révélé cette semaine le fait que dès 1991, Dutroux parlait dans sa correspondance avec Michel Martin du fait qu'un corps devenait impossible à identifier une fois qu'il était carbonisé, du fait que les rapes d'enfants rapportent gros, entre 100 et 150 000 francs, on se demande d'où vient l'argent, et du fait que 6 personnes lui avaient fait du tort et qu'elles étaient toutes mortes. Ces révélations ne sont en fait que des détails significatifs pour l'enquête, mais ce sont des détails dont toute la presse aurait fait ses choux gras à une certaine époque et dont elle a aujourd'hui choisi de ne plus parler. Cette presse reste également fort discrète sur le reste de l'actualité qui entoure l'affaire Dutroux. La semaine dernière, le sénateur agalais Franz Losi a déposé une proposition visant à instituer une nouvelle commission d'enquête au Sénat cette fois pour éclaircir les manipulations qui ont saboté l'enquête sur les dossiers connexes à l'affaire Dutroux et en particulier sur les récits des témoins X. Cette semaine, le député écolo Vincent De Crolly devait interpeller le ministre de la Justice sur le même sujet. Pour rappel, les gendarmes qui enquêtaient sur ces témoignages X avançaient à grands pas dans leurs recherches jusqu'à ce qu'ils soient mis à l'écart, soupçonnés de manipuler les témoins pour leur faire inventer un grand réseau très influent. Il s'avère aujourd'hui qu'ils n'ont commis aucune erreur. On se demande donc pourquoi ils ont été mis à l'écart et vu le poids du dossier, une commission d'enquête ne serait pas un luxe. Quand le soir où la Libre Belgique en parle, il n'y consacre pas plus qu'une brève au ton laconique ou même le plus souvent ironique. La Libre Belgique arrive même à expliquer que malgré leur réhabilitation totale, aussi bien par la justice que par la gendarmerie, les gendarmes de Bad Sebbil restent infréquentables à cause de leur méthode. De toute façon, le sujet est bien trop vaste pour en parler brièvement, et je vous promets donc, chers auditeurs, de vous concocter dans un avenir proche une émission spéciale sur les dossiers X, dans laquelle on pourra faire le point sur toute cette affaire et confronter, s'ils acceptent, les journalistes aux énormités qu'ils ont écrites sur le sujet. Pour terminer, notons tout de même que Le Soir a bel et bien parlé de pédophilie cette semaine, et même abondamment, mais là, il s'agissait de l'affaire du curé d'Autré, un immonde satyre en soutane qui a violé les plus jeunes de ses paroissiens pendant plusieurs décennies. Seulement lui, il est évident que c'est un pervers isolé, et donc Le Soir en rajoute quelques couches pour se donner bonne conscience par rapport à ce sujet si délicat. Dans l'édition de ce lundi, au lieu de parler du colloque sur les réseaux, Le Soir se fend d'un éditorial indigné sur le vilain curé. Cet édito est signé René Aquin, qui fut jadis un bon journaliste d'investigation, et il est intitulé « Les enfants qu'on n'a pas cru ». Quelques citations. Par peur de faire tomber des masques et de regarder la vérité humaine dans les yeux, notre société s'est rendue complice d'intouchables tortionnaires. En les épargnant, elle a culpabilisé plus encore leurs petites victimes. Un peu plus loin, on lit « Une société qui néglige ses enfants pour protéger ses structures ignore qu'elle se détruit ». Fin de citation. Que de belles phrases et comme elles sont justes surtout. Comment expliquer en lisant ça que Le Soir a traîné dans la boue les témoins X alors que tout le monde était d'accord pour dire qu'elles avaient été victimes d'abus sexuels et d'autres sévices massifs? C'est ce qu'on appelle se racheter une conscience à bon marché.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis c'est une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la
la. Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
la la. Tu voulais. La, 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 la,
moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Oui. Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la
20e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante.
Pardon.
On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tombe.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ?
Il n'y a pas que les réseaux de pédophilie que notre presse de référence n'aime pas aborder. Je vous ai parlé dans une émission précédente de sa curieuse manie d'épargner aussi l'OTAN en restant discrète sur les crimes de guerre commis en Serbie et au Kosovo. Autant elle parle des atrocités commises sous les ordres de Milosevic, autant elle se tait sur les violations du droit de la guerre perpétrées par l'OTAN. Il ne faut donc pas s'étonner de l'absence de la presse dominante à une conférence de presse sur le sujet. Pour des raisons d'emploi du temps, j'avoue que je n'ai pas non plus pu me libérer à cette pour assister à cette conférence de presse, mais heureusement, Le Matin, encore lui, publiait aujourd'hui un compte-rendu signé Eric Rydberg, encore lui. Il souligne tout d'abord l'absence de la profession. Avec le correspondant bruxellois de l'agence yougoslave Tanjug, Rydberg était le seul journaliste présent, ce qui lui inspire la question de savoir si c'est parce que le sujet abordé n'est pas politiquement correct. Ce sujet, c'était l'utilisation par l'OTAN de munitions à l'uranium appauvri, un métal radioactif qui est censé augmenter la force de pénétration des missiles dans leurs cibles. On ne doute évidemment pas de leur efficacité, mais bizarrement, les militaires oublient toujours de parler des effets à long terme de leur utilisation. Cet uranium a beau être appauvri, il n'en est pas moins radioactif et donc très nocif à très long terme. Eric Rydberg rappelle qu'il reste actif des milliards d'années, qu'il contamine les sols et les nappes phréatiques et qu'il engendre des leucémies et des mutations génétiques. On a dénombré en Yougoslavie 28 zones à forte concentration en uranium appauvri, dont la plupart se trouvent dans l'ouest du Kosovo. Selon un scientifique anglais, il faut s'attendre au Kosovo à 10 000 décès des suites de l'utilisation de l'uranium appauvri dans les armements de l'OTAN. Frédéric Laure, un journaliste dont on retrouve régulièrement la signature dans le journal du samedi, a enquêté sur les ravages de l'uranium appauvri et il prépare en ce moment un livre à ce sujet. C'est lui qui avait forcé le ministre belge de la Défense, André Flao, à réagir au syndrome des Balkans constaté chez les soldats belges de retour de l'ex-Yougoslavie. En effet, après chaque guerre à laquelle ont participé les États-Unis, on constate que les militaires qui en reviennent souffrent de symptômes inexpliqués et certains vont même jusqu'à en mourir. On connaît pour l'instant le syndrome du Golfe et celui des Balkans, et on en connaîtra certainement un autre après la prochaine guerre. J'ai demandé à Frédéric Laure si ces syndromes sont la conséquence de l'utilisation de l'uranium appauvri.
Je pense effectivement qu'il faut chercher de ce côté-là, en tout cas en ce qui concerne la guerre du Golfe, la guerre du Kosovo. Tout d'abord parce qu'on a toute une série d'éléments scientifiques, puis de témoignages de terrain émanant et de militaires et de civils qui font état de symptômes qui sont communs aux personnes qui se sont retrouvées et dans le Golfe et dans les Balkans. Et donc, il y a d'autres éléments qui entrent certainement en ligne de compte. La destruction des écosystèmes urbains, tant dans le Golfe et plus encore dans les Balkans, ont provoqué des pollutions diverses. Il y a aussi la problématique des vaccins administrés aux militaires pour lutter contre les effets des gaz de combat. Donc il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte et je pense qu'il s'agit là d'un cocktail d'éléments déclenchants, mais l'uranium appauvri a certainement un rôle prépondérant à jouer dans cette problématique-là.
Est-ce que l'OTAN admet l'utilisation de ces munitions à l'uranium appauvri?
Mais maintenant, ils l'admettent effectivement depuis devant l'afflux de témoignages. Ils ont revu leur position initiale qui était de nier catégoriquement au début de l'apparition du syndrome de la guerre du Golfe. Aujourd'hui, ils admettent utiliser ce type d'armes. cela dit, ils nient qu'elles aient un effet quelconque sur la santé des militaires et des populations civiles.
Ces munitions à l'uranium appauvri, pourtant, sont interdites, non?
Oui, elles sont interdites par les conventions internationales, notamment la Convention de Genève sur les armes appelées non discriminantes, c'est-à-dire qu'elles frappent autant les civils que les militaires.
Et l'utilisation de ces munitions constitue-t-elle un crime de guerre?
Là, c'est un critère d'appréciation. Moi, je considère en tout cas que c'est un crime de guerre, effectivement, lorsqu'on voit les effets extrêmement dommageables qu'elles causent. Bon, cela dit, maintenant, il appartient aux instances internationales et notamment à l'ONU de se prononcer sur sur la qualité du crime. Mais dès lors qu'elles sont interdites par les conventions internationales, je pense que on peut raisonnablement parler de crimes de guerre. Il faudrait poser la question à un spécialiste du droit international.
Pourquoi est-ce que les médias traditionnels ont tant de mal à parler de l'utilisation de cet uranium appauvri? On parle de temps en temps du syndrome des Balkans et du syndrome du Golfe. On le met plus rarement en relation avec cet uranium appauvri. Comment ça se fait d'après vous?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. D'abord, c'est un sujet qui fait l'objet d'un blackout de la part des autorités militaires et politiques. Donc il est difficile d'obtenir de l'information pour les médias traditionnels comme pour les autres d'ailleurs, hein. En plus de ça, c'était très peu populaire. On en a très peu entendu parler jusqu'ici, même si maintenant il y a un véritable engouement médiatique. Ensuite, ça demande de s'investir énormément, de mener des enquêtes de longue haleine. Il faut faire la part du vrai et du faux. Il y a la crainte de se laisser intoxiquer par la propagande irakienne ou serbe. Voilà, je pense qu'il y a toute une série d'éléments qui font que bon, on ne s'y intéresse pas vraiment, si ce n'est maintenant parce que ça nous touche directement, ne serait-ce qu'à travers le syndrome des Balkans qui frappe les militaires belges.
Mais vous parlez d'une difficulté de s'informer d'une part et d'un engouement médiatique qui commence d'autre part. Comment expliquer dans ce cas que hier matin il y avait une conférence de presse justement sur ce sujet-là et que les seuls médias qui étaient présents c'était Le Matin et l'agence Tanyoug dont on peut comprendre la présence. La RTBF avait annoncé sa venue et n'est finalement pas venue. Là, c'était vraiment de l'info sur un plateau d'argent. Comment expliquer que même là, les médias ne mordent pas à l'hameçon?
Bah écoutez, je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Il ne m'appartient pas de leur faire un procès d'intention. Je trouve ça effectivement curieux. Dès lors qu'ils avaient la possibilité de trouver une information inédite auprès de personnes qui s'y sont intéressées de près, je pense qu'il serait justement intéressant d'aller leur demander pour quelles raisons ils font l'impasse sur une conférence de presse telle que celle-là.
Vous préparez un livre sur ce sujet. Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses qu'on n'avait pas encore lues ailleurs?
Oui, absolument. Je pense que mon collègue et moi-même qui avons mené cette enquête avons retrouvé des témoignages inédits jusqu'à ce jour, ainsi que des documents jamais publiés. Et je pense qu'on aura pour la première fois une vue d'ensemble de la problématique uranium appauvri des origines à nos jours, si j'ose dire.
On ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La la vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc? On nous casse tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettez la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Dans la Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. On apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Le réseau Échelon, la presse n'en parle pas beaucoup non plus. Le réseau Échelon, c'est un réseau mondial d'espionnage qui épie toutes les télécommunications, qu'elles se fassent par téléphone, par fax, par radio ou par email. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, voici des extraits d'une émission canadienne diffusée récemment sur TV5 et qui parle d'Échelon mieux que je ne pourrais le faire, avec en prime un délicieux petit accent canadien. L'émission s'appelle Le Point. Et les politiciens français que vous allez entendre sont Georges Sarre, député, et Elisabeth Guigou, ministre de la Justice.
Si les interceptions de communication effectuées par les forces policières à l'intérieur du pays sont soumises aux règles du droit, il en va différemment sur la scène internationale où tout est permis. Le Canada est un membre actif du plus important réseau d'espionnage électronique de l'histoire, qui met la terre entière sous haute surveillance. Ce mystérieux édifice entouré de hautes clôtures surmontées de barbelés à Ottawa abrite le Centre de la sécurité des télécommunications, le CST. Ce nom anodin cache le plus important des services secrets du gouvernement canadien. Avec un effectif de 2000 civils et militaires, il est essentiellement consacré à l'espionnage électronique et relève directement du Premier ministre. Le Centre de la sécurité des télécommunications assure la participation du Canada au pacte secret UK-USA, signé en 1947 par les pays anglo-saxons pour créer un réseau global d'espionnage électronique. Le principal centre d'interception du CST est situé ici, à la base des forces canadiennes de Letrim, à quelques kilomètres au sud d'Ottawa, l'un des lieux les plus secrets au Canada. Ces deux dômes géants cachent d'immenses antennes paraboliques d'une quinzaine de mètres de diamètre qui sont pointées vers des satellites internationaux de télécommunications civiles pour intercepter tous les messages qui y transitent. Letrim n'est qu'un maillon d'une chaîne qui ceinture la Terre entière. D'autres installations semblables se retrouvent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Toutes les conversations, les télécopies, les courriels, les transmissions de données qui circulent sur les réseaux de communication internationaux sont interceptées. Pour découvrir les renseignements importants dans ce charabia infini, des logiciels de reconnaissance automatique de texte et de voix ont été installés sur la batterie de superordinateurs la plus puissante de la planète. Le système est connu sous le nom de code Échelon. Son centre névralgique se trouve dans cet immense édifice situé entre Washington et Baltimore, le siège de la National Security Agency, dont les budgets et les effectifs dépassent largement ceux de la CIA. Duncan Campbell est le spécialiste britannique du renseignement qui le premier a attiré l'attention sur Échelon, le système d'intégration du réseau mondial d'espionnage électronique dirigé par les Américains. À la demande du Parlement européen, il a présenté en février dernier à Bruxelles un rapport sur le pacte UK-USA et ses cibles actuelles.
Ils sont à l'affût de tout ce qui a trait au transfert de missiles ou aux éventuels déplacements d'armes nucléaires. Ils s'intéressent au crime organisé et à toute activité liée au trafic de la drogue. Ils surveillent les grandes sociétés commerciales dans tous les pays pour suivre les transactions économiques.
Échelon est capable en très peu de temps de définir des noms de personnes, des habitudes d'utilisation sur le type de logiciel, les destinataires, les émetteurs des échanges par voie de courrier électronique par exemple. Ils peuvent analyser le contenu de ces échanges et obtenir des infos sur l'évolution des tarifs, les partenaires, les fournisseurs, des habitudes de travail, à la limite, suivre par d'autres moyens, par des moyens de collecte d'informations, les dépôts de brevets, l'évolution technologique. Et puis, si on veut aller encore plus loin, ils peuvent connaître à l'avance des plans de communication, des plans marketing, etc. Donc ça va très très loin. Parce que le simple fait d'envoyer un message, il n'y a pas de grosses informations, mais à l'échelle d'une entreprise, 100, 200 messages envoyés, on arrive très finement à déduire et à ressortir des informations très très intéressantes sur l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est de l'intelligence économique.
Les Européens ont été choqués d'apprendre que les Américains se livraient contre eux à des activités d'espionnage économique et qu'ils le faisaient à partir d'une base américaine située au Royaume-Uni. Un pays membre de l'Union européenne collaborait donc avec les États-Unis contre ses partenaires. L'affaire a fait du bruit, notamment à Paris.
Donc, il y a les anglo-saxons, hein, solidaires. Puis il y a les autres. Alors, est-ce que les autres ont laissé faire? C'est la seule question qui se pose.
Il semble en effet que ce réseau soit détourné à des fins d'espionnage économique et de veille concurrentielle. Et par conséquent, ceci appelle de notre part une particulière vigilance.
Quelles sont les entreprises françaises qui en ont le plus pâti? Je vous citerai par exemple Topson, je vous citerai par exemple Airbus. Évidemment, ce ne sont que quelques cas isolés. Mais c'est une affaire que je considère pour ma part comme énorme.
Les Français sont particulièrement irrités par des informations voulant que Boeing ait raflé des contrats à Airbus grâce à des interceptions de communication du réseau Échelon.
Comment a-t-on pu accepter pendant des années que cela fût fait dans le plus grand silence?
À Washington, on répond que c'est de bonne guerre. L'espionnage électronique, affirment les Américains, est une arme pour lutter contre la corruption des Européens. Un ancien directeur de la CIA prend soin, bien sûr, d'exclure les Anglais de sa diatribe.
Nous traquons vigoureusement la corruption. Et on peut dire que l'Europe continentale est la capitale mondiale de la corruption. Les entreprises européennes ont l'habitude de décrocher des contrats par la corruption en Asie, en Amérique latine et au Proche-Orient, qu'elles ne pourraient pas obtenir en respectant les règles du jeu, parce que leur technologie est souvent inférieure à celle des sociétés américaines. En fait, en ce moment, les Européens du continent sont très mécontents parce qu'ils ont perdu un grand nombre de contrats qu'ils espéraient obtenir par la corruption. Et nous avons l'intention de continuer très vigoureusement à leur rendre la vie extrêmement difficile à cet égard.
Malgré toutes ces prouesses technologiques, le réseau d'espionnage global anglo-saxon a ses limites. Les ordinateurs d'Échelon ne réussissent pas encore à comprendre sans aide humaine le sens d'une conversation. Pierre Dumouchel, du Centre de recherche informatique de Montréal, a travaillé pendant des années sans résultat sur des contrats du CST pour mettre au point un logiciel capable de comprendre le contexte des conversations.
Juste à titre d'exemple, pour faire de la reconnaissance de mots, des systèmes de reconnaissance automatique de la parole, mais il arrive à reconnaître un mot sur deux. Là, il fallait reconnaître le sujet, qui est encore un peu plus difficile.
Par contre, les ordinateurs d'Échelon sont facilement capables de reconnaître une voix au téléphone parmi des millions d'autres, selon les techniques de l'empreinte vocale. Où que vous soyez sur la planète, que vous appeliez de Londres à Tokyo, de Stockholm à Sydney, Si votre voix est dans une banque de données du système, un de ces dictionnaires dans l'argot de l'espionnage, votre conversation va être reconnue et enregistrée automatiquement. Autre limite du système Échelon, la montée en puissance des moyens de cryptage. Selon un des spécialistes mondiaux de la cryptologie, l'avancement technologique favorise actuellement les faiseurs de code contre les briseurs de code et les systèmes cryptographiques de haute puissance sont pratiquement inviolables, même par la NSA et Échelon.
Impossible, non, mais infaisable. La différence étant que les systèmes utilisés en ce moment, nous savons très bien comment les briser, mais ça prendrait une durée de temps supérieure à la durée de l'univers.
À la durée de l'univers.
Donc la question, c'est pas est-ce que c'est impossible en principe, mais est-ce qu'on peut y arriver dans un temps raisonnable, dans le temps pour lequel c'est utile d'avoir brisé le système. Et nos connaissances actuelles nous incitent à croire que les systèmes présentement mis en œuvre, s'ils sont utilisés correctement, avec une longueur de clé suffisante, ce qui n'est pas toujours le cas, mais s'ils sont utilisés correctement, résisteraient à une attaque qui utiliserait tous les ordinateurs sur la Terre présentement, en parallèle, pendant des milliers d'années.
Les systèmes de cryptage sophistiqués mettront donc de plus en plus les États et les multinationales à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais les communications internationales des particuliers resteront facilement accessibles aux ordinateurs d'Échelon, la face cachée de la mondialisation.
On l'entend, Échelon fait beaucoup de bruit dans les parlements nationaux, mais au niveau européen, c'est plus flou. Il y a bien une commission d'enquête au Parlement européen chargée d'enquêter sur le sujet, mais elle n'a pas de pouvoir réel. Le trouble vient du fait que les États-Unis sont un pays allié, voire dirigeant, du fait que la Grande-Bretagne, membre de l'Union européenne, participe au réseau Échelon, et aussi du fait que les services de renseignement relèvent de la compétence des États membres et non de l'Union européenne. Chacun aime bien faire bande à part et garder ses petits secrets en la matière. Ce qui inquiète dans le réseau Échelon, c'est sa finalité. S'il a été mis sur pied au départ pour espionner Moscou et ses alliés pendant la guerre froide, il est utilisé aujourd'hui à des fins bien différentes. L'émission canadienne Le Point a révélé qu'Échelon sert non seulement à l'espionnage industriel, mais également à surveiller certains mouvements citoyens considérés comme gênants ou subversifs. Au Canada, ce sont les indépendantistes québécois qui en ont fait les frais. En Belgique, récemment, on a appris que les mouvements citoyens qui s'opposent à la mondialisation sont considérés par notre gendarmerie comme des mouvements potentiellement terroristes et qu'ils sont surveillés comme tels. Encore une affaire soulevée par De Morgan et qui a été accueillie dans le reste de la presse par un silence assourdissant. Dès lors, on se dit que n'importe qui est susceptible d'être surveillé par un réseau de type Échelon, y compris Alter Echo, et j'en profite donc pour passer un petit bonjour à ces messieurs aux grandes oreilles qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Cette semaine, les députés français ont publié un rapport sur Échelon dans lequel il est notamment question de la Belgique. Une excellente occasion d'en parler, et pourtant, à ma connaissance, seuls De Morgan et le journal du samedi l'ont fait. De plus, ce rapport contient quelques hypothèses tout à fait étonnantes, comme par exemple l'idée que le système Échelon aurait été volontairement révélé et médiatisé pour que les entreprises se dotent de systèmes de sécurité et de protection, fournis évidemment en majorité par Microsoft. Non seulement ça doperait encore les ventes du géant informatique, mais le député UDF Antoine Pecht va plus loin. Pour lui, vu les rapports étroits entre Microsoft et le Pentagone, il n'est pas impossible que ces systèmes de protection soient dotés de failles volontaires qui faciliteraient au contraire l'espionnage et les écoutes. On a déjà vu dans le passé des fonctions cachées dans les produits de Microsoft, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces fonctions cachées bénéficiaient plus souvent à la boîte de Bill Gates qu'aux clients qui se servent de ces produits. Pour le reste, le rapport soupçonne que la médiatisation d'Échelon servirait aussi à semer la zizanie parmi les membres de l'Union européenne, ce qui semble bien parti, puisque le même rapport sermonne durement la Belgique, jugée indifférente et fataliste face aux problèmes que constitue Échelon. Il est donc normal que la presse de chez nous n'en ait pas parlé, puisque depuis Dutroux et la dioxine, on n'aime plus du tout ceux qui parlent en mal du joli petit pays de la princesse Mathilde.
Faut laisser couler, et puis après, trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour
C'est effectivement la saison des champignons, mais aussi celle des prix Nobel qui sont proclamés en tir groupé chaque année à cette époque. C'est l'occasion d'une petite page culture pour la première fois dans Alter Echo. Je vous l'avais promise la semaine dernière, mais j'avais laissé la priorité à mes invités autrichiens. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons parler du prix Nobel de littérature. Institution vertueuse, s'il en est, le prix Nobel est le fruit des remords d'Alfred Nobel de voir son invention, la dynamite, exploitée à des fins militaires. Il a donc légué toute sa fortune à un fonds dont les intérêts récompensent chaque année des personnalités qui ont fait avancer l'humanité dans diverses disciplines, dont la littérature. C'est d'ailleurs la seule discipline artistique et toutes les autres, à part la paix, relèvent du domaine des sciences. Cette année, le prix Nobel de littérature a été attribué à Gao Xingjian, un écrivain et dramaturge chinois qui a quitté son pays pour s'installer en France après la répression du printemps de Pékin en 1989. Seulement, il y a un hic que le journal de Morgan exposait en première page de son édition du 13 octobre. Le jour de la proclamation du lauréat était également le jour de la parution d'une nouvelle traduction en suédois de l'un de ses romans. Chose étrange, la maison d'édition a fait imprimer des milliers d'exemplaires de ce livre, alors qu'on ne peut certainement pas dire que l'auteur était une vedette en Suède avant son prix Nobel. De plus, elle n'avait pas annoncé cette sortie un peu inopinée, chose très inhabituelle dans le monde de l'édition. Le hasard s'étoffe encore lorsqu'on apprend que la même maison d'édition a tout récemment racheté les droits de traduction en suédois de l'intégralité de l'œuvre de Gao Xingjian. Elle a racheté ses droits à une maison d'édition qui n'avait d'ailleurs jamais fait une seule couronne de bénéfices sur les œuvres de Xingjian. Enfin, comme le hasard est tenace, il s'avère que le traducteur suédois du Nobelisé, un certain professeur Göran Malmqvist, est justement l'un des 14 membres de l'Académie suédoise qui décerne le Nobel. Sur la liste des 5 favoris de cette année figuraient 2 Chinois, dont l'un était le favori incontesté. Xingjian ne figurait même pas sur cette liste. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces coïncidences méritent au moins qu'on les mentionne, et De Morgan le fait même en première page. J'ai regardé à gauche et à droite, mais même le lendemain, je n'ai vu aucun journal francophone qui mentionnait l'affaire. C'était donc l'occasion de demander aux journalistes qui ont couvert l'événement à La Libre et au Soir pourquoi ils ont fait la sourde plume à ces petits travers pas jolis jolis de l'Académie Nobel. Ceux de La Libre ne m'ont pas rappelé, sûrement qu'ils avaient autre chose à faire. Jacques de Decker du Soir, plus courtois, a gentiment répondu à mes questions. J'ai commencé par lui demander s'il était au courant de l'affaire.
Mais j'ai lu le Morgan, effectivement, qui s'est fondé, à mon avis, sur des informations qu'il avait trouvées dans la presse suédoise. Alors, je pense que l'interprétation consiste à dire que ça a été truqué, ça c'est vraiment aller vite en besogne. Ce que l'on peut acter, c'est qu'effectivement, l'un des membres de l'Académie suédoise est par ailleurs aussi le traducteur en suédois de Gao Xingjian. Ça, c'est vérifié. La chose troublante, c'est qu'effectivement, un contrat aurait été signé avec une maison d'édition suédoise 8 jours avant l'attribution du prix. Or, on sait que le prix Nobel, en fait, est attribué plusieurs jours avant son annonce. Donc, qu'il y ait eu là ce qu'on pourra appeler délit d'initié, bon, c'est pas exclu. Mais ce qui me fait un peu relativiser les choses, c'est que le fonctionnement de l'Académie suédoise débouche nécessairement sur des situations de ce genre, dans la mesure où les membres de cette académie ne sont pas experts en toute littérature, ni ne connaissent tout le patrimoine littéraire mondial. Ils connaissent des auteurs qui leur sont plus proches. Et parfois, ils sont tellement proches de ces auteurs qu'ils peuvent en être les traducteurs. Donc, à mon sens, cette situation s'est déjà présentée dans le passé. Si ça a été mis en évidence à ce point-là, cette fois-ci, d'une part, c'est parce que Gao Xingjian n'est pas extrêmement connu et que beaucoup de rédactions se sont trouvées un peu le bec dans l'eau quand elles ont appris cette désignation. Et si le journal de Morgan a donné une telle importance à cette information, c'est parce que, et on peut les comprendre, ils étaient très déçus que, une fois de plus, Hugo Claus, qui était cité parmi les personnes, disons, nominables, n'avait pas été désigné. C'est un peu l'expression d'une déception, à mon avis.
N'empêche, il y a certains détails troublants. Théoriquement, le prix est attribué 3 jours avant l'annonce. Là, le contrat avait été signé 2 semaines avant. Et puis, il y a des choses qui datent de plus longtemps avant, vu qu'on a appris qu'il y avait un entrepôt plein de livres, d'un roman traduit en suédois de cet auteur, oui. Qui attendait et qui sortait exactement le même jour sans qu'on l'ait annoncé.
Oui, mais là, on a presque affaire à du merchandising.
Je crois mais il faut que quand même raison... pas mal de temps pour imprimer toute une série de livres et les sortir le jour même.
Bien sûr. Mais je pense que de toute façon, je ne fais pas le procès à l'ensemble de l'Académie suédoise d'élire un auteur auquel ils ne croiraient pas, simplement pour faire plaisir à l'un des leurs. Ici, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a probablement eu, dans le cadre de l'Assemblée, donc un avocat particulièrement convaincant, c'était probablement celui qui connaissait le mieux l'œuvre, et peut-être même le traducteur lui-même, mais il n'empêche qu'il est arrivé à gagner les suffrages des autres membres. Il ne faut pas perdre de vue qu'on n'a pas attribué le prix à un auteur négligeable ni médiocre. Là où moi je m'interroge plutôt, et c'est ce qui m'importe davantage, c'est que on a couronné un auteur chinois, effectivement, mais un auteur chinois qui a quitté la Chine il y a déjà 12 ans et qui, en Chine même, est considéré comme un dissident. Alors, je ne suis pas du tout opposé aux dissidents, je dis seulement que le prix Nobel est allé quand même assez souvent à des personnalités littéraires qui s'inscrivent de cette manière-là par rapport à leur pays d'origine ou au régime de leur pays d'origine, et qu'on a l'impression que la dimension politique de la démarche d'un auteur prend trop souvent, à mon avis, le pas sur ses qualités littéraires et intellectuelles intrinsèques.
Dernière question sur le petit malaise au sein du jury et lors de l'attribution. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé, tout simplement?
Mais écoutez, lorsque nous avons eu l'annonce de Gao Xingzhen, à la différence de beaucoup d'autres journalistes, y compris français, il se trouvait que nous le connaissions, Gao Xingzhen. Moi-même, je l'ai rencontré il y a quelques années à la Foire du Livre de Bruxelles, figurez-vous. Et on était particulièrement heureux de pouvoir annoncer que, au demeurant, cet auteur était édité en français pour ce qui était de son œuvre dramatique par un éditeur belge. Et ça nous a totalement focalisés. Le jour même de l'annonce, l'information dont vous parlez n'était pas parue. Elle a paru le lendemain. Hein? C'est-à-dire simultanément.
Dans De Morgan, c'était le jour même.
Pardon?
Dans De Morgan, c'était le jour même.
Oui, oui, mais enfin, le jour où nous avons nous-mêmes paru, je veux dire. Hein. Mm-hmm. Nous travaillons la veille du jour où le journal paraît, forcément.
Hein. Mais donc, tous les journaux font ça, vous savez.
Je sais très bien. Ce que je veux dire simplement, quand vous dites ça a paru le jour même, le Morgan avait cette information que nous n'avons pas eue. Mm-hmm. Le jeudi,
oui,
date
fait.
De l'attribution. Après cela... La nouvelle a donc paru dans The Morgan et le soir n'a pas eu l'occasion de la répercuter, effectivement. La réponse à votre question, elle se trouve peut-être dans la première intervention que j'ai faite. C'est la question de savoir si cela, un, est tellement primordial, parce que la dimension de ce genre d'information dans un cas comme celui-là, c'est que ça jette immédiatement un certain discrédit sur la valeur de l'artiste lui-même qui est primé. Et ça, je trouve que c'est regrettable, parce qu'il ne le mérite pas. C'est un auteur tout à fait estimable et même important. Et deuxièmement, c'est que les raisons pour lesquelles, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, le Morgan a ressenti une espèce de plaisir un peu pervers à développer cet aspect de l'information, était lié à une analyse du résultat qui leur avait paru particulièrement décevant.
Donc voilà, ce n'était en fait que ça, des vilains jaloux qui remuent la mer là où il n'y a que des pétales de rose et qui jettent le discrédit sur une noble institution. Saluons donc le soir qui se contente de féliciter à juste titre l'artiste.
Sensitive artist. Nobody understands me because I am so deep. In my work, I make allusions to books that nobody else has read, music that nobody else has heard, and art that nobody else has seen. I can't help it because I am so much more intelligent and well-rounded than everyone who surrounds me. I stopped watching TV when I was 6 months old because it was so boring and stupid, and started reading books and going to recitals and art galleries. I don't go to recitals anymore because my hearing is too sensitive, and I don't go to art galleries anymore because there are people there, and I can't deal with people because they don't understand me. I stay home reading books that are beneath me and working on my work, which no one understands. I'm sensitive. I am sensitive.
Et voilà, on arrive déjà tout doucement à la fin d'Alter Echo pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous serez un peu orphelin puisque je prendrai des vacances ô combien méritées. Pas d'émission donc le jour de la Toussaint, les saints ne me l'auraient d'ailleurs jamais pardonné. Je vous retrouverai donc le mercredi 8 novembre en pleine forme pour vous raconter mes vacances et autres petits secrets. Le temps de remercier Pete d'avoir assuré la technique, je vous dis au revoir et à bientôt.